שלום וברכה, שלום שלום לכולם, בוקר טוב, בוקר טוב, והנה אנחנו חוזרים, ça y est, on revient dans notre étude de la névoie dans tous ses états, après un intermède la semaine dernière dû à Tu Bishvat évidemment, et donc on a parlé de cette fête des fruits. Alors j'aurais pu dire, non ben aujourd'hui aussi on va pas parler de la névoie, j'aurais pu vous dire tiens on va parler de Messibat, de la fête des garçons, Parashat Yitro, mais ne me considérant pas comme un Tunisien de souche, eh bien non, je me suis dit on va pas faire le cours là-dessus, d'autant plus que j'aurais été très mauvais à faire le cours là-dessus, et j'ai encore des trous dans ma compréhension de ce que représente exactement la fête des garçons, donc si un jour quelqu'un peut m'expliquer, eh bien je lui en serai très reconnaissant. Quoi qu'il en soit, Nous allons retourner dans notre étude du Tanakh, de la névoie dans tous ses états. Est-ce que quelqu'un peut me faire un signe comme quoi c'est bon et qu'on peut commencer? Donc je vais attendre quelques secondes pour voir si quelqu'un peut se manifester. Et ensuite, nous enchaînerons dans le livre de Melachim, Beth, au chapitre 17 et 18. Alors, les chapitres qui vont nous intéresser aujourd'hui, c'est 17 et 18. Voilà, donc on va dire que j'ai attendu les 30 secondes syndicales. Et comme ça, on va pouvoir commencer. Yofi, j'ai reçu un pouce en l'air, donc allons-y. Yala. Alors, Boker Tov, les Koulam, ça y est, on revient à notre étude du Tanakh. Sefer Melachim Bet au chapitre 17. Alors, nous avons terminé, il y a deux semaines, sur eh bien, l'un des événements les plus dramatiques au sein de la communauté juive, puisque on avait vu une guerre entre Israël et Yehuda. Et ça, c'est absolument terrible. Une guerre entre Israël et Yehuda, deux frères qui se font la guerre. Ça a été l'épisode tragique. Nous allons, de cet épisode, arriver à un épisode qui est encore pire. Un épisode qui est encore pire, et pour de là arriver à la Nechama, pour de là arriver à quelque chose qui est quand même un petit peu positif. Et vous allez voir de quoi on parle. Nous sommes dans le chapitre 17 du livre de Melachim Bet. C'est la fin de Mamlechet Israël. Ce chapitre voit la chute de Mamlechet Shomron. Et là, j'aimerais que les choses soient bien mises en avant, juste avant qu'on commence à lire les versets. Rappelez-vous de petites secondes que depuis maintenant près de 200 ans, à peu près, le royaume d'Israël est divisé en deux. Mamlechet Israël, l'état d'Israël au nord, et Mamlechet Yehuda, l'état de Judée au sud. On est, nous, aujourd'hui, des Juifs. Pendant 2000 ans, on s'est appelé Yehudim, Juifs. Pour nous, la conscience collective qui a perduré pendant 2000 ans, c'est l'an prochain à Jérusalem. Alors, on parlait de Jérusalem, on parlait de Hebron, on parlait de Bethléem. Mais de manière générale, pendant 2000 ans, on n'a pas du tout mis l'accent sur la notion de Shomron, sur la notion de la Samarie. C'était pas vraiment la centralité de l'identité d'Israël. Nous étions des Juifs, tout simplement parce que ceux qui ont tenu jusqu'à la fin de l'époque du premier Beth Amikdash, c'est Mamlechet Yehuda, et que après, eh bien, c'est ce concept-là qui est resté pendant l'époque du Deuxième Temple. Le pays s'appelait Yehuda, provincia Judea sous la domination des Romains, jusqu'à ce que ça devienne la Palestine, mais ça, c'est encore une autre histoire. Ça veut dire que la notion Yehudi l'a emporté sur la notion israélie du Nord. Alors que lorsqu'on regarde dans le Tanakh, depuis Pilug HaMamlacha, depuis le schisme, et ce jusqu'à la chute de Shomron, c'est-à-dire pendant 200 ans. En termes de Tanakh, ça représente le livre de Melachim, Aleph Vebet. Ça représente aussi, et il ne faudrait pas l'oublier, le livre de Ishayahu, une grande partie. Et ça représente également pratiquement tous les livres, je dis pratiquement, de ce qu'on appelle Tréhassar, des 12 petits prophètes. En d'autres termes, le Tanakh se concentre pendant les 200 années où il y a deux États, eh bien, le Tanakh se concentre sur la partie nord, sur la partie Israël. Il est évident qu'entre Mamleret Israël et Mamleret Yehuda, la plus puissante, la plus grande, la plus développée, la plus au centre de tout, c'est Mamleret Israël. Bien évidemment. Les contacts internationaux, les réalisations se font du côté de Mamleret Israël. La prophétie se tourne beaucoup plus vers Mamleret Israël que Mamleret Yehuda. Tous les grands noms de la prophétie, que ce soit Eliyahu Hanavi, Elisha Hanavi, j'ai dit, à partir de Ishayahu, on va commencer à rentrer dans Yehuda. Yirmiyahu, Yechezkel, il n'y a pas à en parler, puisque il n'y a plus de Mamleret Shomron, et pourtant, on parlera quand même d'eux. Mais quand on parle de Yirmiyahu, de Eliyahu Hanavi, Elisha Hanavi, Amots, quand on parle de Yonah, quand on parle de Ovadia, tous ces prophètes sont des prophètes qui parlent de Shomron, dans l'État du Nord. Donc, il faut bien comprendre cela. La chute de Shomron représente une chute terrible dans notre identité. Puisque, comme on l'avait dit la semaine dernière, Shomron, c'est le côté économique, le côté de l'abondance matérielle, alors que Yerushalayim, c'est plus la dimension spirituelle. Comment faire perdurer une dimension spirituelle sans la dimension matérielle? Alors, allons-y maintenant dans le texte, chapitre Yud Zayin. Alors, il est très probable, on va avancer les atlas parce qu'il s'agit de deux chapitres extrêmement importants. Il est possible qu'on ait besoin de deux cours pour bien les comprendre. On n'est pas pressé. Bishnat 12 le'achaz melech Yehuda. Malach Oshea ben Ela beshomron. Al Israël 9 shanim. Oshea ben Ela est le dernier roi d'Israël, de Mamlechet Israël. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Hoshea ben Ela, comment est-il considéré? Est-il un tzaddik ou est-il un rachat? Et bien, regardez ce que la Torah nous dit. Il a régné pendant 9 ans. Vaya sara be'ene Hashem. On nous dit c'était un rachat. Rak lo kemalche Israël asher hayu lefanav. Aha! Il n'était pas aussi pourri que les rois qui l'ont précédé. Mazotomeret, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle a été la situation? Ben c'est très simple. Hoshea ben Ela a pris une décision. On dira le Talmud dans le traité de Moed Katan que Hoshea ben Ela a fait une chose bien dans sa vie. Ah ouais, c'est quoi? Eh bien, il a tout simplement annulé les murs, les barrières qui empêchaient les juifs d'Israël à aller en Mamlechet Yehuda. Il y avait vraiment une Gader Afrada, il y avait un mur de séparation entre Israël et Yehuda qui avait été mis en place par Yerovam ben Nevat. Eh bien, on dit ici que Hoshea ben Ela, il a enlevé ces murs-là. Donc, il a fait Mehod, Kol HaKavod Hoshea ben Ela, tu as participer à la réunification du peuple juif, c'est beau. Oui, c'est beau, mais non, c'est moche. Parce qu'il faut replacer son acte dans son contexte politique et historique. Regardez la suite du verset. Alav ala Shalman Aeser Melech Ashur. Comprenez-moi bien, à ce moment-là de l'histoire, nous sommes en l'an plus ou moins moins 730. D'accord ? Plus ou moins en moins 730, la destruction du royaume d'Israël sera en moins 721. Or là, on nous dit qu'il a régné pendant 9 ans. Donc au début de son règne, on est en moins 730. Les deux grandes puissances du monde sont l'Égypte au sud et Ashur au nord, la Assyrie. L'équivalent de le nord de la Syrie actuelle. Bekitsour, Shalman Esser, qui est roi assyrien, a une domination complète sur la région et va balayer l'influence égyptienne comme d'un fétu de paille. Les Égyptiens ne sont plus à ce moment-là véritablement une alternative. Vaï, Lorsque Shalmaneser arrive en Israël, c'est pour s'assurer que l'État d'Israël va bien rester un vassal de la Assyrie et non pas de l'Égypte. Oui, car il va falloir deux secondes se replacer dans le contexte. Le roi de Yehuda, à ce moment-là, on a dit, s'appelle Achaz. Achaz avait déjà, d'ores et déjà, accepté de ne pas être avec l'Égypte, mais d'être avec Ashour. En d'autres termes, la Judée, sous la domination de Achaz, est devenue un vassal de la Assyrie. Nous sommes des serviteurs de la Assyrie, une province de l'empire colonialiste assyrien. Hoshéa ben Ela, lorsqu'il accepte, il n'a pas le choix, que les choses soient bien claires, lorsque Shalmaneser arrive en Shomron, tu comprends bien que Hoshéa, il n'a pas du tout le choix de dire non. Donc Hoshéa, il dit, ok, nous aussi on est des Assyriens. Résultat des courses, eh bien quand on replace les choses dans le contexte, de dire que Hoshéa, il a annulé les murs, ses parents Yehuda et Israël, et on dit, voilà, ouais, Kolakabod. Mais en même temps, il n'y a plus de raison de séparer entre Yehuda et Israël. Parce qu'il n'y a plus de Yehuda et Israël. Il y a Ashour et Ashour. Donc, ce n'est pas une grande métia, que c'est pas quelque chose d'énorme que Hoshéa ben Ela va enlever ces séparations. De toute façon, nous ne sommes plus qu'un seul et grand serviteur de Ashour. וימצא מלך אשור בהושע קשר אשר שלח מלאכים אל סו מלך מצרים ולא העלה מנחה למלך אשור כשנה בשנה ויעצרהו מלך אשור ויעצרהו בבית כלא. À un moment donné dans l'histoire de Hoshéa ben Ela, il a décidé de ne plus véritablement se comporter en tant que vassal Néhéman. En tant que vassal loyal, qu'est-ce qu'un vassal doit faire ? Il doit payer. Il doit payer. Il y a la rançon par an pour avoir la protection de sa majesté Shalmaneser. Seulement, on nous dit qu'à un moment donné, Makara, eh bien, Hoshéa ben Ela a eu des velléités de se rattacher à So. So, c'est le nom du roi égyptien. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Shalmaneser lui a rappelé qui était le patron. Et donc, il lui a dit, vas-y, on va te calmer tout de suite. Il a pris Hoshéa et il l'a amené en prison. Nounou, Bishnat atteshi'it le Hoshéa, lakad melech Ashur et Shomron, vayagel et Israël Ashura, vayeshev ota bachlat ou bachor, nehar gozan veare medai. Mais vous rendez compte? De quoi on est en train de parler? La destruction de Shomron est résumée ici en deux versets. On nous a simplement dit, voilà, dans la 9e année du règne de Hoshéa ben Ela, eh bien Shalmaneser, le roi de la Assyrie, l'a pris et bam bam, boum boum, terminé, yallah. Ben, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe ici? On n'en parle plus, c'est comme ça qu'on a balayé l'histoire d'Israël en un verset. ויקחתו בני ישראל להשם אלוהיהם המעלה אותם מארץ מצרים מתחת יד פרעה מלך מצרים ויראו אלוהים אחרים. Ici, ספר מלאכים vient nous expliquer למה, pourquoi הקדוש ברוך הוא a emmené une destruction aussi énorme, rapide sur ממלכת שומרון. חתו בני ישראל וילכו בחוקות הגויים אשר הוריש השם מפני בני ישראל ומלכי ארץ ומלכי ישראל סליחה אשר עשו ויחפו בני ישראל דברים אשר לא כן על השם אלוהם ויבנו להם במות בכל עריהם ממגדל נוצרים עד עיר מבצר. On est en train de nous passer en revue les chutes de Am Israël. Non seulement on est עובדי עבודה זרה, on a fait des bamotes un peu partout pour les différentes idolâtries, on a pris toutes les minagim des goyim. Vayitzivu lahem matzevot ve'asherim al kol giva gevoa ve'tachat kol etz ra'anan. On a mis un autel idolâtre dans chaque colline et sous chaque gros arbre. Oui, il faut savoir qu'à l'époque, chez les idolâtres, les endroits étaient porteurs de spiritualité. Lorsqu'il y avait des grands arbres très imposants, eh bien, en général, il y avait toujours un pulchan, il y avait toujours un hôtel à côté de ces grands arbres. Et pareil, pour une grande colline qui surplombe la vallée, eh bien, on pensait toujours que c'était l'endroit où se trouvait la divinité. Vaikateru sham bechol bamot kagoyim asher igela Hashem su dvarim raim la'achiset Hashem vayavdu agilulim asher amad Hashem lahem lo ta'asu et hadavar hazeh. C'est-à-dire, on est en train de passer en revue toutes les perversions qu'on a eues. Vayad Hashem beYisrael ubiYehuda beYad kol nevi'e kol chozeh lemor shuvu midarchechem haraim veshimru matzvotai vechukotai kechol haTorah asher tziviti et avotechem ואשר שלחתי עליכם ביד עבדי הנביאים, ולא שמעו, ויקשו את ארבם כעורף אבותם, אשר לא האמינו בהשם אלוהיהם. ואם עשו את חוקיו, את בריתו, אשר כרת את אבותם, ואת אדבותם, אשר העיד בם, וילכו אחרי ההבל, ויבעלו, ואחרי הגויים אשר סביבותם, אשר ציווה השם אותם לבלתי עשות כהם. Nous dit la Torah, que les choses soient bien claires, on a rejeté Mitzvot Hashem, et pourtant, Dieu avait envoyé ses serviteurs, les prophètes. Ce verset, que « Loshmatem beyad avadai anevim » va servir de base à un enseignement du Talmud. Un enseignement qui nous dit que « Chacham adif minavi ». Mazé « Chacham adif minavi », un sage est préférable à un prophète. Alors que les choses soient claires, il ne s'agit pas ici de la grandeur du personnage. Il est évident qu'un sage est beaucoup moins grand qu'un prophète. Un prophète, c'est un machou énorme, mais c'est beaucoup moins effectif un prophète. Les prophéties, les prophètes ont parlé, ont parlé, ont parlé, ont fait de la tochecha, en veux-tu, en voilà. Ça n'a pas marché. Am Israël a continué à faire avodah zara. Chachamim sont beaucoup moins grands, mais ils nous ont mis en place un système pour que toute notre vie, dans les petites actions du quotidien, soit rattachée à Kadosh Baruch Hu, même si on n'y comprend pas grand-chose. En d'autres termes, Hachacham ou Matzliach, Anavi ou l'Omatzliach. Ah, alors si on dit ça, peut-être qu'il vaudrait mieux que la prophétie ne revienne pas. Si ça ne marche pas, alors pourquoi est-ce qu'on attend tellement le retour de la prophétie ? Eh bien, d'abord, parce que le niveau de la vie, la madrigat ha-chaim, lorsqu'on est avec la prophétie, c'est une vie où on est en contact avec Dieu. Et ça, rien ne peut le remplacer et ne peut rivaliser avec. D'un autre côté, la prophétie va revenir après qu'on ait eu 2000 ans de sagesse, qui fait que maintenant, on ne va pas tomber dans les mêmes dérives que nos ancêtres. Donc, on attend vraiment le retour de la prophétie, al-tidagou. Mais là, on nous dit, vayazvu et kol mitzvot Hashem Elohim, vayasu lahem massecha, shne agalim, vayasu ashera, vayishtachavu lechol tseva shamaim, vayavdu et abbaal. Bon, voilà, on nous rattache au premier problème de Mamlechet Shomron, Yerovam ben Nevat, qui crée ces deux veaux d'or. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ma korepo. Vaytanaf Hashem meod be Israël, vayasirem mi alpanav, ולא נשאר רק שבט יהודה לבדו. C'est-à-dire, Dieu nous dit, ça y est, j'en ai marre, je les ai dégagés de devant chez moi, en gros, je vais les exiler de la terre d'Israël, il ne restera plus que Yehuda. Et là, on se dit, bon, bah, qu'est-ce que je te dis ? Mais non ! גם יהודה לא שמר את מצוות השם אלוהים, והלכו בחוקות ישראל אשר עשו, וימאס השם בכל זרע ישראל, ויענם ויתנם ביד שוסים עד אשר ישליחם מפניו. כי קרא ישראל מעל בית דוד, וימליכו את ירובם בן נבט, וידח ירובם את ישראל מאחרי השם, והחטיאם חטאה גדולה. והלכו בני ישראל בכל חטאות ירובם, אשר עשה, לא סרו ממנה, עד אשר הסיר השם את ישראל מעל פניו, כאשר דיבר ביד כל עבדיו הנביאים, ויגל ישראל מעל אדמתו אשורה עד היום הזה. Tout ce paragraphe Ce paragraphe vient justifier Galout Aseret HaShvatim. On dit même Yehuda est tombé, mais en fait ils sont tombés à cause d'Israël. Voilà la raison de l'exil. Vous avez tellement décidé de vous détacher de la promesse d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu a dit non, c'est où ? On a déjà eu un cas comme ça similaire. Je vous rappelle que dans la paracha de Vayera, lorsque Akadosh Baruch Hu a fait la promesse à Abraham de lui donner un fils pour hériter de la terre d'Israël, eh bien juste après, il y a deux hommes qui s'appellent Avimelech ou Pichol Sar Tsevao qui viennent voir Abraham pour lui demander de faire la paix avec eux. Et comment on fait la paix ? Eh bien, ils demandent à Abraham de leur promettre qu'il ne conquérera pas leur territoire. Leur territoire, c'est le Gush Katif. Et Abraham signe les accords de paix. Juste après, le verset qui suit, « Vayi achar devarim ha'ele va'elohim nissa et Abraham ». Juste après cela, nous avons le début de Parashat Ha'akeda qui arrive. Le Rashbam nous explique, Rabbi Shmuel ben Meir, c'est ça, le petit-fils de Rashi, le grand frère de Rabbeinu Tam, nous dit, ben oui, évidemment, Dieu a promis à Abraham de lui donner la terre d'Israël, c'est pour ça qu'il lui a donné un fils. Nous dit le Rashbam, Abraham, en renonçant à une partie de la terre d'Israël, Dieu lui dit, ben, je t'ai donné un fils pour qu'il hérite de la terre, tu veux pas de la terre, rends-moi le fils. Et d'où la Akedat Yitzhak. Comme Abraham n'a pas donné toute la terre d'Israël, eh bien, ce n'a été qu'une grande frayeur. Yitzhak n'a pas été tué. Mais là, dans notre cas, on nous dit, Israël ont rejeté tout ce qui faisait l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Donc, ben, ils ne peuvent plus hériter de cette terre d'Israël qui est la récompense de lorsqu'on est nous-mêmes. Tov nu azma makore. Eh bien, on nous dit que ça y est, on nous a emmenés en exil à Shura. Et là, tout le problème est là. Parce qu'on ne s'est pas contenté de partir en exil. Mais comprenez-moi bien, ce verset, je le relis, c'est le verset Kaf Gimel. Ad asher esir Hashem et Israël me'al panav ka asher diber b'yad kol avada v'nevi'im v'yigel galut Israël me'al admato ashura ad ayom azé. C'est un verset terrible. Mais terrible. J'aimerais vraiment m'attarder là-dessus parce que ce verset vient nous dire que jusqu'à aujourd'hui, on a perdu l'écrasante majorité du peuple juif. Et encore, tu vois, je dis peuple juif. Alors, il faut dire le peuple d'Israël. Aseret HaShvatim, 10 tribus. Alors, on avait déjà expliqué que peut-être que c'est pas 10, peut-être c'est 8. Mais non, mais Chané, l'essentiel du Ham Israël est parti en exil et n'est toujours pas rentré. Alors, c'est très bien qu'aujourd'hui, on ait les Éthiopiens qui se revendiquent de Dan, Bnei Menaché. Ah, ben, le Chasser. Alors, que faire ? Vayavem Melech Ashur mi Bavel ou mi Kuta ou mi Aza ou mi Hamat amis parvanim vayashev be'are Shomron tachat bene Israël vayereshu et Shomron vayeshevu be'area. Ça, c'est la technique imparable de Ashur. Les Babyloniens, on connaît un petit peu l'histoire, on est Makdim et Ameuchar. Les Babyloniens vont aussi arriver à un moment donné, détruire Jérusalem, détruire le peuple juif, enfin l'Eretz Yehuda, et vont nous emmener en exil. Mais il y a une grande différence entre les Babyloniens et les Assyriens. Les Babyloniens, lorsqu'ils nous emmènent en exil, eh bien, qu'est-ce qui reste en Eretz Yehuda ? Il ne restera rien. C'est-à-dire, ça sera pas mal. Les Assyriens, ce n'est pas du tout ça. Ils ont une technique extrêmement importante pour prévenir de toute révolte, hein, et deux, pour faire en sorte qu'il n'y ait absolument plus velléité de revenir à la maison. Lorsque on t'a enlevé de ta maison et que tu as toujours les jumelles sur ta maison et que tu vois ta maison, elle n'a pas bougé, elle t'attend, ben tu as envie de rentrer. Mais si tu vois dans tes jumelles que ta maison ne ressemble plus du tout à ta maison parce que quelqu'un d'autre est arrivé et l'a complètement chamboulée, ça donne beaucoup moins envie de revenir. Les Assyriens, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont conquis plein de peuples. Et à chaque fois qu'ils conquièrent des peuples, ils font un transfert. Les Bnei Israël de Shomron, ils les emmènent en exil en Assyrie. Et de là-bas, ils vont les relocaliser ailleurs. Et en attendant, en Eretz Israël, eh bien, ils vont mettre des populations qui venaient de Babylone. En l'occurrence, ces populations qui venaient de Babylone, qui vont s'installer en Eretz Israël, comment est-ce qu'on les appelle? On les appelle, eh bien, ici, on nous dit, c'est des gens qui venaient de Babel, de Kout, de manière générale, de Azza. Azza, à ce moment-là, c'est qui? Ezra, qu'est-ce que j'ai raconté? L'Azza, autant pour moi, oulala. Quand j'ai dit Azza, je me suis dit, mais c'est bizarre, ça correspond pas. Non, mais Ava, c'est ça. Tous ces peuples-là qui viennent de la région de Babylone, eh bien, le terme générique, parce que semble-t-il, c'était la population la plus importante en Shomron, c'était les Koutim. Donc, dans le Talmud, on va parler beaucoup de Kouti, à Kouti. Mais plus généralement, ces peuples-là qui vont habiter maintenant dans le Shomron, comment, non seulement le Talmud, mais la tradition d'Israël et eux vont s'appeler? Ils vont s'appeler les Shomronim, les Samaritains. C'est de là que vient la notion de Samaritain. En anthropologie, combien de temps met une identité humaine à se sentir chez lui dans un nouvel endroit? Eh bien, au niveau anthropologique, complètement le nouvel endroit où il est. La première génération de ceux qui sont partis ne sont que Gaagouim pour l'endroit où ils étaient avant. La deuxième génération sont les gens qui veulent faire leur preuve, qui veulent montrer qu'ils ne sont pas comme leurs parents, mais ils sont toujours ramenés à leur condition de fils d'eux. La troisième génération s'intègre beaucoup plus, on ne les ramène plus à leur identité d'avant, mais eux recherchent un petit peu de nostalgie. La quatrième génération, Zéou. Ils sont complètement intégrés. Ils pensent et vivent au rythme de l'endroit dans lequel ils sont nés depuis maintenant quatre générations. Les amis, je pense que nous le voyons chez nous. En Malahasot. Moi, je me considère comme étant donc la génération de celui qui est parti de France. Je suis la génération du Olé Hadash. Éphéméod. Men Malasot. Alors, Mazéani Kouliga Agoui. Non, j'essaie de travailler sur ça. Mais regardez, le cours, il est en français. Et puis, lorsque je me fais une petite soirée raclette, n'est-ce pas, Adassa? C'est la France. Lorsqu'on va s'acheter un petit cidre, lorsqu'on va aller dans la macolette des Français, c'est la France. La génération qui suit, mes enfants. Non, dans ma synagogue, qui a été construite avant que j'en devienne le rabbin, par des gens qui avaient toute l'ambiance de ce qu'ils ont connu à Paris et en France, et voulaient recréer cela. C'était une ambiance très communautaire, très sympathique, très conviviale, à majorité francophone. Les enfants de ces gens-là ont refusé de venir dans cette synagogue quand ils ont grandi. Parce qu'ils ont dit, non, c'est chez les Français, ça. Nous, on n'est plus des Français. Mais les enfants de ces enfants vont commencer à dire « Mais attendez, c'est quand même sympa de revenir. D'aller en vacances en France, sur papier mamie, machin. » Mais la quatrième génération, c'est terminé. En d'autres termes, la technique de Ashour, elle est fantastique. Parce qu'elle va permettre à faire en sorte que ceux qui habitent maintenant dans le Shomron, ils se sentent balabait. Et donc un juif qui, un Israël, qui maintenant déciderait de se révolter. Tu veux qu'il se révolte où? Là-bas, à Babylone, mais il n'est pas chez lui. Et lorsqu'il se sentira chez lui au bout de quatre générations, il ne voudra pas se révolter parce qu'il voudra rester à Babylone. Mais c'est exactement ce qui va se passer lorsqu'on aura Shiva Tzion. Dans le livre de Haggai, les gens restent à Babylone. Bien sûr. Il en va de même dans l'autre sens. Les gens qui sont ici, ils veulent rester ici. Ils ne sont pas juifs. Azma Koré. Vaï betrilat shivtam sham lo yareu et Hashem. Vaï shalach Hashem baem et arayot. Vaï yua orgim baem. Là, on nous raconte un truc très intéressant, que c'est Shomronim, donc c'est Goïm, qui sont venus ici au début. Lo yareim et Hashem. Lo yareim et Hashem. Bah, tu m'étonnes. Ils sont venus avec toute leur croyance, toute leur avodah zara. Kadosh Baruch Hu, il aime pas quand on fait la Avodah Zara Beretz Israël. L'Oev et Zeh. Gam Bagoyim. Et là, c'est intéressant. Il faudrait quand même se rappeler. Akadosh Baruch Hu, il a un grand problème avec nous quand on fait Avodah Zara. Mais nulle part dans le Tanakh, on peut voir que Akadosh Baruch Hu a un problème avec les Goyim qu'ils font la Avodah Zara dans leur pays. Quand ils font la Avodah Zara en Israël, Zeh lo beseder. Donc là, on nous dit, lo yaru et Hashem. Donc Dieu leur a envoyé les lions. Et ils se sont fait bouffer par des lions. Bon, bah alors qu'est-ce qu'on fait ? Vayomru le melech Ashur, les morts, agoyim asher iglita, vatoshev ba'are shomron, lo yadehu et mishpat Elohe ha'aretz, veshalach bam et ha'arayot, veine mimitim otam ka'asher einam yodim et mishpat Elohe ha'aretz. Tout le monde est conscient que chaque territoire a sa spiritualité, a sa divinité qui domine ce territoire. Et donc, évidemment, nous on sait que c'est Ribbono shel Olam, mais pour les Goïm, Ovdei Avodah Zara, ils se disent, ben c'est parce qu'on a dû froisser le dieu de cette terre-là. On est venu avec nos dieux à nous. Eh, il n'est pas content, le dieu de cette terre-là. Donc que faire ? Tsarir, la sot est Mishpat el Haaretz, mais on ne connaît pas. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai, on ne connaît pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Vayatzav melech Ashur lemor olichu shamma echad mi hakohanim asher iglitem misham וילכו וישבו שם ויורם את משפט אלוהי הארץ. ויבוא אחד מן הכהנים אשר יגלו משומרון וישב בבית אל ואם מורה אותם איך יראו את השם. רואים ce qui se passe? On ramène un ben Israël qui a été emmené en exil à Ashur. On le ramène et il va servir de Kohen Gadol la Goïm. En leur expliquant comment on doit servir Dieu. Ça vous rappelez-vous? Am Israël, en Eretz Israël, Bemamlechet Israël. C'est là, Bidyuk Tzadikim. Alors, qu'est-ce qu'il va leur apprendre ? Ben, tu comprends qu'est-ce qui va se passer. Iné. Vayu osim goy goy Elohav, vayanichu bebet abamot, asher asu ashomronim, goy goy barem, asherem yoshvim bam. Vayanche bavel, asu et sukot benot, vayanche kut asu et nergal, vayanche chamat asu et ashima, vayavim asu et nifchaz, vayet tarbak, vayet asevachim, sorvim vayet beneem baesh. לאדרמלך ואנמלך אלוהי ספרים ויהיו יראים את השם ויעשו להם מקצותם כהני במות ויהיו עושים להם בבית הבמות את השם היו יראים ואת אלוהיהם היו עובדים כמשפט הגויים אשר יגלו אותם משם כמו נסקיספס הוא מאה פלס נובל רוליג'יון מתנו הם יראים את השם mais ils continuent à faire leur idolâtrie. C'est-à-dire, en fait, ils font leur idolâtrie et ils emmènent aussi eh bien, des corbanotes à Yudke Vavke. En France, ils continuent à faire Gilui Arayot, Shvichut Damim, Avodah Zara, mais ils font Shabbat. C'est une idéologie qui est complètement Mehouvetet. Qui est complètement tronqué dans tous les sens. Et c'est ça que va représenter Mamlechet Shomron dans sa chute. Parce que finalement, pourquoi ça nous intéresse que... Pourquoi le Tanakh nous raconte tout ça ? Pour nous dire que tout ce qui vient de se passer là, tout ce qui a été mis en valeur par ces goyim qui ont pris notre place, c'est exactement ce que nous faisions. C'était avant qu'ils partent en exil. עד היום הזה הם עושים כמשפטים הראשונים אינם יראים את השם ואינם עושים כחוקותם ומשמטם וכתורת וכמצווה אשר ציווה השם את בני יעקב אשר שם שמו אשר שם שמו סליחה ישראל ויחות השם איתם ברית ויצווהם למור לא תראו אלוהים אחרים ולא תשתחוו להם ולא תעבדו ולא תסבחו להם כי את השם אשר העלה אתכם מארץ מצרים, בכוח גדול בזרוע נטויה, אותו תיראו ולא תשתחוו ולא תסבחו. ואת החוקים ואת המשפטים ואת התורה והמצווה אשר כתב לכם, תשמרו לעשות כל הימים ולא תראו אלוהים אחרים. והברית אשר קראתי אתכם, לא תשכחו ולא תראו אלוהים אחרים. כי את השם אלוהיכם תיראו, והוא יציל אתכם מיד כל אויביכם. Dieu rappelle quel était normalement le contrat passé avec le peuple Israël. Pourquoi il le dit maintenant? Alors que maintenant, ce sont Anshe Shomron qui sont là. Ce ne sont plus les Juifs. Pour dire que c'est exactement ce qui s'est passé avec les Bnei Israël. Velo Shammeu, ki mishpatam arishon emosim. והיו הגויים האלה יראים את השם ואת פסיליהם היו עובדים גם ביניהם ובני ביניהם כאשר עשו אבותם הם עושים עד היום הזה. Voilà la situation. Voilà la situation terrible de l'après-destruction de Mamlechet Shomron. En Israël, goyim, d'ailleurs d'après la halakha, les Shomronim, à un moment donné, donc on a dit, ils se sont convertis hier chez où ? On les appelle dans le Talmud « Géré Arayot », les convertis des lions. En fait, ils s'en fichent de la Torah, mais ils ont juste peur de Eloé Haaret. Voilà la destruction de Shomron. Il n'y a plus de Shomron. Terminé Shomron. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe en Eretz Yehuda ? Khurban Shomron, c'est en moins 721. Mais comme vous le savez, le Tanakh n'est pas un livre chronologique. Et donc, lorsqu'on ouvre le chapitre 18, eh bien, en fait, on revient en arrière. Eh oui, ça ne va pas nous aider à comprendre. Mais on revient en arrière pour nous dire quoi ? Ben, pour nous expliquer comment est la situation dans le royaume du Sud au moment où Hoshéa ben Ela a accepté la domination assyrienne. On a dit, Achaz, qui était le roi de Judée, avait déjà accepté la domination assyrienne depuis longtemps. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a un changement de gouvernement à Jérusalem. Vei bishnat shalosh l'Hoshéa ben Ela, melech Israël, malach Chizkiyahu ben Achaz, melech Yehuda. Bam ! Iné, Chizkiyahu a melech ! Top, que les choses soient claires, quand on parle Chizkiyahu HaMelech, tout de suite on entend dos, religieux. Mais deux secondes, il nous faut replacer Chizkiyahu dans son contexte. Il faut replacer les choses dans le contexte. Chizkiyahu, dans quelle vie il grandit ? Il est le fils de Achaz Melech Yehuda, il est le prince de la Judée. Beseder. C'est qui son oncle ? Son oncle n'est autre que nous. C'est là, pas son oncle, son cousin. Son cousin, autant pour moi. Son cousin n'est autre que le fils de son oncle. Oui, jusque-là, tout va bien. Oui, mais son oncle, c'est le frère de son père. Ah oui ? C'est bien. Et alors, où tu vas en venir ? Bien, je vais en venir que Achaz, il a un frère qui s'appelle Amots. Ça commence à monter ? Achaz, son frère s'appelle Amots. Et Amots, il a un fils qui s'appelle